Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could beat gaming.
Salut à tous! Bienvenue sur RNG Radio and Gaming, vous êtes bien sûr Radio Campus Paris 93.9 FM. Je suis en compagnie de mon ami et collègue Ulysse.
Salut Swell.
Ça va bien?
Ça va très bien et toi?
Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant un mois il n'y avait pas d'épisode, explique-toi, où est-ce que t'étais? Où est-ce que j'étais aussi?
Où est-ce qu'on était? Eh ben c'est pas compliqué, pour être tout à fait transparent avec nos
auditeurs.
On était aux Bahamas, Il y avait les thunes de Radio Campus Paris là qu'il fallait
ça
les mettre à l'abri.
Le 13e mois de décembre, il a drop. Voilà, on a bien graille. Non, c'est faux, c'est totalement
pas
faux.
Pas vrai du tout.
On a eu juste un gros souci technique en mars. Du coup, on a dû tout simplement annuler l'épisode.
Ouais. On a dû annuler l'épisode, pardon. Moi aussi, je suis tombé malade, donc ça nous a vachement décalé au niveau du planning. On va sûrement retourner cet épisode-là prochainement. Je sais pas si on peut le spoiler, parce que c'est un petit épisode un peu chill.
Ouais, le sujet c'était est-ce qu'on doit finir nos jeux? Voilà. Il devait sortir en mars et finalement on a galéré, donc on s'était dit c'est pas grave parce qu'en février on a quand même bien mangé, il y a eu deux épisodes qui sont sortis quand même en l'espace d'une semaine. Mais on est de retour là, dernière ligne droite, il reste qu'une poignée d'épisodes avant la fin de la saison 2. Et sans plus attendre, on fonce. De quoi on parle aujourd'hui?
Alors aujourd'hui on va parler de la Switch 2.
Ouais.
Qui fait couler beaucoup d'encre.
Compliqué
beaucoup
de pas en parler.
Ouais, de réactions de youtubeurs en mode
quoi?
Voilà, exactement. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces prix? C'est quoi ces jeux? C'est une PS4 à 450. Enfin voilà, vous voyez un peu le délire. Je pense que tout le monde a un peu suivi ça de près ou de loin. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire un épisode comme pour la PS5 Pro. C'est notre deuxième épisode vraiment centré sur du hardware actuel, en fait, moderne,
une
on va dire.
Console précise.
Voilà, c'est ça. Parce que l'épisode rétrospective PlayStation compte pas vraiment là-dedans.
Mm-hmm.
Du coup, là, c'est un peu une sorte d'épisode un peu react, mais surtout une discussion pas à chaud. On a eu le temps de digérer le Nintendo Direct. Il y a eu pas mal d'informations. Il y a eu des tests de la Switch début avril. Là, on tourne cet épisode donc le 16 avril.
On sait déjà beaucoup de choses.
Et voilà, on sait déjà beaucoup de choses sur la console qui devrait donc sortir début juin.
C'est ça.
Le 5 juin, je crois. Et voilà, on va essayer un peu de débriefer toutes les informations. On a une problématique qu'on va établir autour de ça. Et je vais laisser un peu Swill dérouler l'épisode, parce que lui, il a vraiment vachement suivi ça, et je réagirai beaucoup plus à ça.
Bah, tout simplement, je pense qu'on va surtout beaucoup se focaliser, parce que la grande majorité des informations qu'on a eues vis-à-vis de la Switch 2, c'est via le Nintendo Direct, qu'il y a eu il y a quelques semaines maintenant, début avril, c'est le 2 avril, un truc comme ça. On a eu un long Nintendo Direct, qui était quand même une conférence vraiment de bonne qualité, des superbes annonces, tout le long, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, vraiment en mode... Des grosses annonces, des gros jeux, en veux-tu, en voilà. Des grosses informations sur la Switch 2 d'un point de vue software, online, ce genre de choses. Plein de trucs différents. Donc, on a quand même été satisfait, je pense qu'on peut le dire. Mais comme pas mal de gens, il a fallu attendre la fin de la conférence pour se rendre compte que il y a quand même un goût amer qui reste en bouche, je pense, vis-à-vis surtout de la politique tarifaire.
Ouais.
Est mis en place par Nintendo, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va plus parler vers la fin ou à la moitié de l'épisode. Moi, en fait, ce que j'aimerais faire dans cet épisode, c'est pas juste de parler de la Switch 2, mais essayer à travers le Nintendo Direct et de la politique de Nintendo, essayer de deviner le futur de Nintendo, en fait. Qu'est-ce que, en fait, ce Nintendo Direct, qu'est-ce que ce qu'on sait pour l'instant sur la Switch 2, parce qu'on l'a pas encore dans les mains, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut essayer de prédire l'avenir, en fait? Comment va se dérouler la Switch 2? Comment elle va se... vis-à-vis de la concurrence aussi? Parce que même si on sait que Nintendo, depuis un long moment maintenant, ils font plus trop la course avec Xbox et PlayStation, mais en vrai, il y a quand même toujours une forme de concurrence. Il n'y a plus de guerre, mais il y a toujours quand même une forme de concurrence. Mmh. Et la Switch 2, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la Switch 2? Moi, l'un des trucs les plus importants, je pense, à retenir de ce Nintendo Direct, c'est d'un point de vue technique, qu'est-ce que la Switch 2 nous raconte vis-à-vis de la Switch, la première Switch de sa grande sœur, qu'on va appeler la Switch 1, ça va être beaucoup plus simple. Selon moi, en fait, Nintendo n'a pas vraiment de raison de sortir la Switch 2, en fait. En réalité, quand on prend d'un point de vue purement économique, la Switch 1 se vend toujours hyper bien, en fait. La console est sortie en 2017, ça fait maintenant 8 ans qu'elle est sortie. on pourrait se dire que ouais, 8 ans pour une console, c'est un bon run, il faudrait peut-être cut et arrêter. Mais en termes de vente, purée, à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort, il est en top des ventes. À chaque... Genre, la Switch pourrait tenir comme ça jusqu'à, allez, facile, 2028-2030, et Nintendo serait tranquille. Elle se vend hyper, hyper bien. Mais d'un point de vue technique, c'est quand même compliqué. Je veux dire, déjà en 2017, on se plaignait pas mal de la situation technique de la Switch 1. Elle avait quand même tiré un peu la grimace vis-à-vis de la PS4 et de la One.
Ouais.
Et là, maintenant, avec en plus la PS5 qui est sortie, les Xbox Series, le PC qui explose comme pas possible, la Switch 1 devient en fait, commencer vraiment à devenir obsolète d'un point de vue technique. Et il y avait vraiment un retard vraiment, vraiment, vraiment fort avec la concurrence. Et la Switch 2, elle arrive, et on se dit, ouais, la Switch 2, elle va arriver. C'était des promesses, enfin, pour l'instant, on n'est pas trop sûr, mais c'est vis-à-vis du ray tracing, du DLSS, je ne sais pas si toi, t'en sais un peu plus.
Ouais, bien sûr.
Mais il y a quand même des gros doutes sur la capacité de la Switch 2 à faire tourner des jeux en ray tracing. L'arrivée de Cyberpunk a fait pas mal couler d'encre.
Et bah, à ce niveau-là, justement, si moi je peux rebondir déjà là-dessus, moi, je trouve que la Switch 2, elle arrive à un bon moment. Je pense que en théorie, ouais, Nintendo n'a pas besoin, mais il y a un côté quand même nécessaire. Il y a quand même un côté où le marché a besoin d'une nouvelle Switch parce que, comme tu dis, elle fatiguait vraiment. Elle commençait à se faire vieille sur des jeux comme Bayonetta 3 qui sont assez ambitieux, sur les Pokémon où on sait que Game Freak ils sont à chier. Désolé hein, pour l'optimisation de leur jeu en 3D. C'est vraiment leur problème à eux. C'est vraiment tout le monde dit ah mais pourquoi le jeu est aussi moche ? C'est parce qu'ils sont pas habitués à faire des jeux en 3D. Ils ont pas l'habitude de gérer un moteur graphique et un espace comme ça. Donc même si la Switch n'est pas une console si mauvaise, mais ça reste une pomme de terre, eux, ils font n'importe quoi avec, et du coup, la console, elle est vraiment à bout avec 3 textures. Mais du coup, là, on voyait que ça devenait de plus en plus compliqué, que les jeux multiplateformes ne se faisaient de moins en moins. On parlait souvent des Switch, des ports impossibles, quand on voyait des The Witcher 3, des Doom, en disant « Oh mon Dieu, comment le jeu tourne sur une Switch ?» Il y a énormément de concessions qui ont été faites. Et donc là, la Switch 2, en gros, ouais, vu que c'est Nvidia qui fait le GPU, c'est un processeur graphique, donc c'est un GPU-CPU, donc ça gère les deux parties. En fait, l'idée c'est qu'il devrait y avoir du DLSS. Pour l'instant, il n'y a pas eu de traces trouvées sur les jeux faits, donc il y a moyen que jusqu'à la sortie ils travaillent dessus. En tout cas, ils peuvent l'implémenter parce qu'en gros, l'équivalent là c'est qu'elle est compatible au niveau des. Je regardais du coup les capacités techniques, c'est l'équivalent d'une 3000 et quelques en termes de confection juste technique. C'est-à-dire qu'elle est compatible avec le DLSS, elle est compatible avec le ray tracing, toutes ces technologies là, elle a en fait les cœurs CUDA et les corps je sais plus quoi. Qui permettent que, ouais, elle peut lire entre guillemets du ray tracing, si on devait vulgariser. Maintenant, en termes de puissance, c'est aussi le souci où c'est une console portable. Du coup, il y a aussi la capacité en termes de voltage, donc d'alimentation, parce que votre Switch, elle va pas durer 20 minutes et après c'est fini, donc faut qu'elle tienne la longueur. Donc elle est cadencée, je crois, à 1000 MHz, je crois que c'est ça. Ce qui est que dalle. Ouais. Genre, vraiment, vous regardez maintenant des processeurs ou autres, même des trucs, ça va monter, je crois que une carte graphique, ça va monter jusqu'à 2005-2006 MHz, la carte graphique seule. Le processeur, il va monter jusqu'à 4-5 GHz. Enfin, voilà. Là où on vous dit, non, c'est 1.
Et, ouais, c'est pas beaucoup.
Et du coup, après, en termes de teraflops, on a calculé, Digital Foundry a regardé, que c'était équivalent à une PS4, PS4 Pro, mais avec, par contre, voilà, la compatibilité technique des dernières technologies Nvidia. Donc, en termes de puissance brute, c'est pas énorme. On pourrait se dire, ah, elle a quand même une génération de retard, mais elle le rattrape sur d'autres éléments. Ce qu'on a vu là, donc, avec Cyberpunk, où les chiffres qui ont été sortis, c'est que, du coup, le jeu en docké peut être compatible 1440p 30 fps et sinon c'est 1080p 40 fps et apparemment visuellement c'est un peu plus clean que la version PS4, genre c'est de la résolution dynamique, ça va de 540p je crois à 1000 et quelques, donc ça va osciller, mais foncièrement la preuve quand même que la Switch est un peu plus capable, c'est que tu as le DLC Phantom Liberty qui va être sur la Switch, qui n'est même pas sorti sur PS4 parce que justement il est beaucoup plus gros graphiquement, je sens qu'il est pensé pour des machines plus pour des PS5 et des Series X en fait. Donc c'est même pas une extension qui a été pensée pour la PS4, là elle est sur Switch. Donc
à voir comment ça
Day tourne, One, ouais. Voilà c'est ça. Avec les et donc ça montre que quand même déjà elle a cette petite capacité en plus. Mais voilà, moi je trouve que la question qui se pose avec la Switch 2, c'est le public visé. C'est quand tu parles un peu de l'avenir de Nintendo, pour moi, ils ont jamais fait, enfin ils ont plus fait la course au graphisme depuis la GameCube et tout ça. Mais on sent que là ils veulent, pour moi la public elle se destine en fait aux possesseurs de la Switch 1.
Clairement.
Pour moi, c'est ceux qui avaient une PS4, une Xbox, qui ont une PS5, une Xbox ou qui ont un PC. C'est pas que la console n'est pas pensée pour eux, mais elle va avoir la même attractivité que pour la Switch 1, 2. Si vous voulez jouer à Mario Kart, si vous voulez jouer à Donkey Kong, elle est pour vous. Mais ceux qui avaient qu'une Switch, qui n'ont jamais fait Cyberpunk 2077, qui n'ont jamais fait Elden Ring,
qui ont peut-être une PS4 ou une Xbox One, qui n'ont jamais passé sur une autre génération.
Mais pour moi, c'est vraiment ce truc-là de... Ça, c'est vraiment le côté de genre, ouais, ceux qui n'avaient qu'une Switch, je pense que là, la console, elle a un... elle a une promesse de ouf, où elle te dit, ah, tout ce catalogue de jeux que t'as raté, là maintenant, il t'est accessible. Tu
surtout
vois.
Qu'on parle de près de, je crois, 115-120 millions d'exemplaires vendus, donc ça fait quand même une partie de la masse de consommateurs qui est vraiment énorme, en fait. C'est vraiment, il parle pas à une niche, il parle vraiment à un nombre de consommateurs vraiment très, très élevé. Ouais.
C'est ça. Et donc, je pense, moi, vraiment qu'il y a plus ce côté attractif de se dire... parce que c'est ça qu'il y avait des réactions par rapport au Nintendo Direct, où les gens pouvaient être un peu en mode... Ok, est-ce que c'est vraiment intéressant? C'est beaucoup de jeux qui sont sortis il y a 5, 6, 7 ans. On y a déjà joué 2, 3, 4 fois. Un peu comme The Last of Us, on se dirait c'est bon, on le connaît depuis 10 ans, pourquoi il ressort en remaster, remake, enfin bref. Et moi, je trouve que c'est un peu réducteur parce que je pense vraiment qu'il y a une partie des gens qui n'ont pas encore fait ces jeux. Vraiment, les joueurs Nintendo purs, je pense vraiment pur et dur, qui étaient à fond sur le côté jeu indé, familial, stand Nintendo. Et donc pour eux, c'est une proposition de fou. Par contre, pour les autres, ouais, il y a peut-être un côté un peu... peut-être que les gens s'attendaient à plus, mais je vois pas... Enfin, en termes de hardware pur, si on doit un peu faire une conclusion de ce qu'est la console, je trouve que c'est une excellente proposition. Je veux dire, c'est quand même en termes de qualité, en fait, de fabrication. Là, les Joy-Con ont l'air plus solides. L'écran, du coup, est compatible VRR, ce qui veut dire qu'en termes de fluidité, il va s'adapter, du coup, à la fréquence d'image. C'est du 120 Hz. C'est...
Elle en a dans le ventre.
Voilà, c'est du LCD. Donc bon, c'est pas... On espérait du OLED, on en parlait sur l'épisode de la fin d'année bilan 2024.
Très prégnant quand même.
Mais apparemment l'écran est plutôt qualitatif, il est compatible HDR, à voir. L'intérêt du LCD, c'est que malgré tout, ça reste plus lumineux que du OLED.
Donc quand on est dehors, peut-être il y a du soleil, voilà. Là le LCD donc, pourrait
même
faire
s'il
la
y a pas le noir infini, ça a aussi ses avantages. Même si je pense que sous les mois, en ayant goûté à du OLED,
ouais.
Donc, c'est que je...
Par contre, on la mettra en dock et on jouera sur le LG, hein, t'inquiète. Hein,
voilà, c'est bon. Le parti pris presque maintenant, je suis convaincu que le OLED c'est quand même supérieur. Mais je vois les avantages aussi du LCD, même si les technologies évoluent, même sur le OLED. Donc, c'est une console qui est un peu plus chère qu'un Steam Deck, ou un peu moins cher, qui a l'air d'être un peu plus performante. Parce que le Steam Deck aussi, il est vieillissant, hein. Ça fait quand même quelques années qu'il est sorti. Vous voyez, les derniers jeux, s'il doit les faire tourner, il galère de ouf. Donc, pour moi, c'est une proposition qui, pour le prix, pour faire la transition vers le tarif.
460 euros
460, c'est ça,
ouais. 469,
et encore, on la voit sur pas mal de revendeurs
à
440 ou à 430, ouais.
C'est que là, Carrefour, par exemple, je viens de checker, 440, la console sans jeu, voilà, juste la Switch 2, 440. Par et contre, quand va falloir rajouter un jeu, là, ça va.
Ouais, parce que le bundle, il est à quoi, à 510 euros
500 balles. Quand c'est 509 euros, ouais, c'est ça, genre 500 euros, vous avez votre Switch 2 avec Mario Kart World.
Bah écoute, on va en parler tout de suite parce que en gros, ouais, ce que quand tu disais l'annonce de la Switch, il y a eu un peu le côté amer à la fin. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le prix n'avait pas été annoncé pendant le direct. Ça, c'était donc après, fallait aller sur le site.
Ouais.
Tout le monde sur les réseaux essaie un peu de trouver les informations parce qu'ils ont dit, ah, pour plus d'informations, allez sur
on
le
site. On savait déjà que c'était mauvais signé.
C'est vrai.
Ça, c'est vraiment.
Et d'un coup, ouais, tu vas sur la page Nintendo et moi, je pense que l'avais vu un tweet tout de suite qui a dit, oh mon dieu. Et là, on voyait le 400 et quelques euros, 510 euros avec Mario Kart.
Moi, je maintiens, je sais pas, mais en tout cas, c'est monté 439 euros. Non, 469 euros pour la console. Je trouve que c'est fair. Vraiment, je trouve que c'est juste. C'est cher, clairement. Je pense que le prix parfait, ça aurait été... franchement, idéalement, ça aurait été 400 euros. Clairement, faut demander à ce que la console soit à 350. À un moment, les gars, faut être réaliste.
Oui.
400 euros, ça aurait été parfait. Je pense que j'aurais grincé des dents à partir de 500. Ah, je sais pas, j'ai pas... Par contre, le prix des jeux, c'est autre chose. Mais 469, je suis en mode, c'est pas ce qui me tend le plus, d'une certaine manière.
Le prix de la console ?
Ouais.
Ouais, non, je suis d'accord. Il y a un état d'esprit où, tu sais, on peut vite se faire à cette idée-là, ou en tout cas, on peut comprendre, malgré tout, ça reste du hardware, ça coûte cher, que ce soit même Nvidia sur la puce qu'ils ont fait confectionner, les Joy-Con, qui maintenant, du coup, ont aussi un côté souris gyroscope, enfin... Maintenant, quand on cumule, genre par exemple une DualShock, le prix de hardware de plein de choses et tout, oui, ça coûte cher, il y a l'inflation partout, on le sait. Donc, on peut comprendre que le prix de la Switch est grimpé de genre les 10, 15, je crois que c'est 20% peut-être, ou 15%, voilà, de moyenne. Ça reste cohérent, et je suis en mode, c'est pas non plus un 500, avec le bundle, oui, mais c'est pas du 700, 800 euros, l'équivalent d'une PS5 Pro, où là, on est dans des prix où on vient quand même vraiment toucher de la sphère du PC, en fait. Donc ça reste une console avec des gros guillemets accessibles et qui a le combo ouais, portable et dock. Genre le Steam Deck, si on voulait brancher votre télé, il n'y a pas un dock. Il faut aller voir votre câble HDMI ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas pratique. Là, il y a, il y a quand même une proposition genre nomade qui est intéressante. Maintenant, le vrai souci qui a été soulevé et qui, là, pour le coup, les gens ont du mal à avaler la pilule, et on voit beaucoup de débats qui partent dans tous les sens.
C'est peut-être le plus gros, le truc qui a généré le plus de débats.
Ouais, surtout vis-à-vis de, comme tu dis, un peu l'avenir de Nintendo. C'est moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que toi, tu penses, du coup, de la politique tarifaire vis-à-vis des jeux. Et je te laisse aussi contextualiser de pourquoi est-ce que ça fait débat.
Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez. RNG.
Le gros jeu qui a été vraiment mis en avant sur le Nintendo Direct et tout, c'est Mario Kart World. Mario Kart 8 Deluxe a été le jeu le plus vendu sur la Nintendo Switch. Forcément, on s'attendait à un nouveau Mario Kart sur la Switch 2, et ça fait sens, et il va sortir Day One avec la console, ça va être clairement un system seller, clairement les gens vont acheter la Switch 2 pour Mario Kart, et ça fait sens. Sauf que le jeu sort à un certain prix, et ça vraiment, je pense que c'est ce qui m'a le plus choc-bar, c'est... 89,99 en physique et 79,99 pour la version digitale. C'est cher. Putain de merde, c'est... qu'est-ce que c'est cher. C'est tout simple. Bah, c'est un record, tout simplement. C'est-à-dire, ouais. On n'est pas sur une version collector d'un jeu. Parfois, on peut voir des éditions, je sais pas quoi, Deluxe,
Anniversary,
Legendary, tout ce que tu veux, Henri. Ils te le font, genre la Suicide Squad Game of the Year édition à 150 balles, tu vois. Parce que le jeu était Game of the Year, bien sûr.
Bien évidemment.
Et là, Mario Kart World, le jeu a l'air bien, ça c'est pas la... Franchement, tiens, je pense que c'est un disclaimer qu'il faut... Le jeu a l'air bien, y a pas de souci. Le jeu a l'air super. Clairement, on l'a pas encore testé, mais le virage un peu open world, tout ça et tout, a l'air absolument super. Mais... Là, on rentre dans un monde où on peut voilà, commencer à considérer des jeux qui coûtent 89,99€, et je trouve ça... Moi, je trouve ça quand même assez chaud. Je trouve ça quand même assez chaud parce que les arguments qui ont été mis, je pense, par Nintendo et par les raisons pour lesquelles on pourrait penser, voilà, pourquoi un tel prix, ce serait parce que vraiment, ce serait une proposition unique. On n'a pas testé le jeu, on peut pas savoir.
Ouais, bien sûr.
Mais c'est l'argument. Apparemment, le jeu est vraiment si bien, c'est tellement genre la quintessence d'une formule, le renouveau de Mario Kart, tout ça et tout, que apparemment ça vaudrait son prix. Mais je, pour moi en fait, ça vient un peu déséquilibrer le paradigme un peu. Ça vient un peu redéfinir. Ok, ça veut dire que maintenant on est dans un monde où des jeux peuvent coûter ce prix-là. Mais du coup, qu'est-ce qui vaut vrai ? Qu'est-ce qu'un jeu qui vaut 90 balles en fait ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'un jeu qui vaut 90 balles ? Est-ce que du coup l'argument de c'est tellement qualitatif, c'est tellement un jeu ouf apparemment que ça vaut 90 balles, ça veut dire que du coup des jeux qui seraient moins bons pourraient coûter beaucoup moins cher. Ça veut dire, est-ce qu'on rentre dans un paradigme comme ça, là où avant tous les jeux, parce que ce qui définit le prix d'un jeu, d'un coût de développement, qu'on le veuille ou non, c'est pas sa qualité, c'est son coût de développement. C'est pour ça que des jeux indés qui sont faits voilà, par des trucs coûtent très souvent moins cher que des jeux qui sont faits par des gros studios, qui demandent beaucoup plus de ressources, du marketing, ce genre-là, où les jeux sortent à plein pot, 69,99 souvent. Maintenant, avec la PS5, on était rentré dans des jeux qui coûtaient...
80€.
80€, 79,99. Ouais. Et là, en l'espace de 5 ans après les PS5 et Xbox Series, on arrive avec des jeux qui... Nintendo arrive, maintenant, nous, on met la barre encore plus au-dessus. J'ai l'impression que l'arrivée de Mario Kart World vient brouiller un peu notre conception de qu'est-ce que doit valoir un jeu. Et je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi vraiment, c'est un débat qui est hyper intéressant. Mais je suis dans un flou total. Je sais vraiment pas comment considérer ça.
Bah, je suis un peu comme toi. En vrai, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je trouve que Nintendo a ouvert un peu la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'en effet, ils ont ouvert le dialogue au niveau des prix. C'est que maintenant, c'est une discussion. Avant ça, en fait, pour faire un peu un exemple, c'est comme si vous alliez au cinéma, vous vouliez aller voir, je sais pas moi, Avatar 2, on vous dit bonjour, ça fera 35€. Mais attendez, ma place de cinéma, elle coûte 10 balles de base. Non. Là, le film a coûté tant, c'est un quintuple A, donc vous allez payer plus. Votre cinéma, la place, elle est tarifée, genre avec un modèle standard. Genre, vous payez votre place le matin, peut-être moins cher. Ensuite, il y a le côté classique, moins de 26, peu importe, il y a des tarifications. Mais enfin, il y a des catégories.
Pour tous les films.
Pour tous les films, c'est la même chose. Peu importe que ce soit un blockbuster, un film indépendant, un film d'auteur. Vous payez votre place de cinéma le même prix et vous avez accès au même film. Et c'est pas parce que le film fait genre 4h30, 5h, 6h que la place va coûter plus cher. Donc, il y a cette espèce de standardisation de comment on consomme, j'aime pas ce mot, mais voilà, vraiment, on va digérer ou autre de l'art, en tout cas une œuvre. Et dans le jeu vidéo, c'était pareil. C'était bah, tel jeu coûte tant parce que c'est la tarification, en fait. C'était avant, pendant très longtemps, c'était 60 euros. Je crois que c'était 60 euros neuf il y a 10 ans, le prix d'un jeu. Et c'était déjà vu comme un peu cher. Moi, j'achetais jamais mes jeux plus de 50 balles. Ensuite, ça a monté à 70. On était en mode, ah, quand même, ça fait un peu cher. Ensuite, c'est monté à 80. La plupart des gens attendaient que les jeux soient à moins de 70 balles, ce qui se faisait trouver assez facilement. Souvent chez même Leclerc, Carrefour, Auchan, c'était 55-60 euros max, parce que eux, s'ils vendent les jeux aussi peu chers, parce que c'est des produits d'appel, ils n'en ont rien à foutre de vendre des jeux vidéo au tarif qu'il faut pour ne pas avoir de pertes. Le mec va acheter son jeu vidéo, il va aller faire des courses, eux c'est là-dessus qu'ils font leur pain en fait. Donc ça leur importe peu. Là où tout ce qui est Micromania, chaîne vraiment de vendeurs, c'est de la concurrence déloyale, hein, c'est triste, mais ouais, eux ils doivent vendre le jeu, doivent se faire une marge dessus. Et ils sont obligés de le vendre à 79,99, 89,99, et à côté, faire des espèces de prix pour dire « Ah bah vous avez 10 euros le bon d'achat » pour le côté, tu sais, avoir justement une fidélité clientèle, en termes de clientèle. Mais donc, moi, je trouve que c'est compliqué parce que si on commence à avoir le débat de « Ah, il faut acheter un jeu au prix de son développement, donc est-ce que c'est un double A, un triple A, un quintuple A, enfin un quadruple A à la Skull and Bones ?» Je pense que ça va, il va y avoir des dérives en fait, parce que surtout il y a tellement de triple A et de quadruple A qui
valent pas leur prix
et qui valent pas forcément leur prix aussi, c'est ça.
C'est ça.
C'est tout le monde a, là on parle de ça, mais tout le monde a en perspective GTA 6. Tout le monde sait que Rockstar là ils sont dans le coin, ils regardent ça.
Je pense qu'ils se frottent les mains. Hein.
Ils se frottent les mains en mode
okay, ah merci okay. Nintendo, c'est bon. Ah les cons, ils ont gobé ça là. Voilà. Sortez-moi le jeu à 109 euros là.
Et les gens vont dire non, c'est mérité, c'est GTA 6, ça fait 10 ans, il est en développement, on ne sait rien.
Non,
sauf arrêter. Que ça ne devrait pas être le cas, c'est que le jeu vidéo reste un. Ce que je veux dire, c'est que le jeu vidéo, ça reste un loisir à la base, c'est censé quand même être accessible. C'est qu'on pourra me dire non, mais il y a des loisirs assez chers, faire du golf, tout ça. Ouais, non, mais normalement, le jeu vidéo, ok, ça coûte cher. C'est vraiment un loisir qui coûte cher. Jouer à des jeux vidéo, il faut une console, il faut le hardware, il faut ta manette, il faut les jeux. Mais c'est pour ça qu'il y a des abonnements, c'est pour ça qu'il y a plein maintenant aussi d'options pour rendre ça un peu accessible, et ça l'a toujours entre guillemets été. C'est que. C'est convivial, c'est familial. Quand là maintenant, on va dire.
Surtout les consoles. Ouais, ce qu'on disait consoles. Un peu sur la PS5 Pro en vrai.
Oui, oui. Ça, donc en fait, si t'as un gamin qui l'a, je sais pas moi, à 8-10 ans, il va voir sa maman en mode ouais, maman, je peux voir la Switch 2, c'est 500 euros. Et au fait, si je veux tel autre jeu en plus, c'est 80 euros. C'est.
Il y a un mec qui l'a dit un truc tout bête. Genre, il a dit, ouais, imagine, toi gamin, tu dois dire à ta mère, maman, achète-moi le Mario Kart. Et imagine la réaction de ta mère quand elle voit que Mario Kart World coûte 89,99.
Ouais, non, mais c'est
moi
ça,
je l'avais dit à ma mère et tout en mode maman tu penses que les jeux ça coûte combien aujourd'hui, elle m'a dit oh, je sais pas je dirais 50-60 donc en vrai ça
ouais,
va ça va tu vois et ma mère m'achetait jamais les jeux neufs à l'époque tu vois. elle m'achetait jamais ça et vraiment je lui ai dit tu sais que là il y a un nouveau Mario Kart qui va arriver devine le prix, elle m'a dit je sais pas moi 70, j'ai dit non 90 et même elle était choquée alors que tu sais elle y connaît rien tu ouais. vois mais elle se dit non mais jamais de la vie j'achèterai un jeu neuf
oui 90 euros 80,
genre on se rend pas compte à quel point genre c'est énorme.
C'est cher et en plus, faut savoir qu'avec Nintendo, enfin tu le sais aussi, genre les jeux ils baissent jamais de prix, ils sont jamais de décote. C'est que s'il y a le rare le marché du jeu physique, ce qui est intéressant sur Xbox ou PlayStation, c'est que ça va baisser de prix.
Ça dévalue très rapidement.
Très rapidement, vraiment en un an, vous pouvez choper un jeu d'occasion ou même 40, juste en promo.
30 balles.
Là par exemple, je sais qu'il y a des promos en ce moment sur les jeux Ubisoft. Vous pouvez trouver, on va dire je fais une pub mais c'est pas le cas, juste à la Fnac ou autre, je sais qu'ils ont genre jeux Ubisoft moins 50%. Donc genre les Avatar Frontiers of Pandora, les Prince of Persia, même les derniers Assassin's Creed, pas Shadows mais les autres, vous les trouvez à genre à 20-30 balles. Ils sont sortis il y a même pas un an pour la plupart, donc ça reste qu'en un an ça baisse de ouf. Combien coûte un Mario Odyssey, un Breath of the Wild,
ça coûte toujours
un Mario
cher,
Kart 8, ça reste à 60 euros, 60 et quelques je crois. C'est vraiment leur jeu, ils topent à 55-60, donc avant ça on pouvait se dire qu'en plus leur jeu était pas encore dans les 80 euros, parce que les jeux Switch c'est toujours 60 euros max, mais ils baissaient jamais. Maintenant, on va vraiment monter sur un cran au-dessus. Donc, comme tu dis, il y a ce côté concurrentiel de. Ils viennent dans la sphère des prix des PlayStation Xbox. Et du coup, la question de dire, c'est ouais, est-ce qu'il faut considérer Nintendo comme PlayStation, comme Xbox ? Parce que souvent, les gens vont dire, ah, on fait une sorte de. Tu sais, on chouchoute un peu Nintendo dans le débat. C'est que. C'est pas qu'on les chouchoute, c'est que c'est les seuls à considérer le jeu vidéo comme encore un loisir et à faire des vrais jeux. Je dis pas ça en bâchant Xbox ou PlayStation.
Oui, ils font des très bons jeux aussi, hein, Indiana Jones.
Nintendo, ils ont une culture de jeux vidéo. Genre, s'il fallait résumer le jeu vidéo à quelqu'un, tu parles de Nintendo.
Ouais.
Genre, tous leurs jeux sont créatifs, ludiques, ils ont tout le temps des
idées. Et même là, dans le Nintendo Direct, excuse-moi, je te coupe, mais le Donkey Kong qui est fait par les mecs d'Odyssey, le Metroid Prime, là, non mais. Et c'est même pas le débat, je veux dire, ils sont sur le run de la Switch. Nintendo va continuer à nous sortir des jeux de fou et c'est un secret pour personne. Genre,
voilà.
Mais
Mais le problème, c'est cette politique tarifaire et se dire, est-ce que c'est normal ? Et forcément, moi, je suis comme toi, je suis assez perdu. Surtout quand tu vois que, moi, je trouve qu'il y a un côté très redit de la PS3 et de la Xbox One, un peu les pires jours de ces deux constructeurs, où, bah, je vais prendre deux exemples. La Nintendo, on leur a fait la remarque vis-à-vis du coût de la console qui a coûté cher. Ils ont fait comme Dan Matrick avec la Xbox. Ils ont dit, ah bah, on a une console très accessible, pas trop chère si vous pouvez pas acheter la Switch 2, c'est la Switch 1.
Dan Matrick avait dit... Oui, voilà, Dan Matrick avait dit la même chose pour l'Xbox One, en mode, ah, il y a la 360, pour c'est ceux ça. Qui veulent une très bonne console, qui voilà. Et, mais là, la Switch 2, ils sont, je t'ai dit, pour ça que la console s'appelle Switch 2, MDR, CQFD, mais ils sont clairement dans une optique de... C'est de gratter un peu plus le succès de la Switch 1.
Et c'est ça qui, pour moi, tu sais, entre guillemets, peut-être à double tranchant. Rien que, par exemple, tu vois, la démo technique, on sait qu'il y a une démo, c'est pas du tout un Astro Playroom ou un Wii Sport, mais c'est une sorte de livret, entre guillemets, qui devrait coûter 10€, qui va être sur Switch, du coup, pour vendre les capacités de la console, juste le gyroscope, le côté souris, le 120 FPS, donc plein de petits mini-jeux.
Un truc qui pourrait être totalement gratuit.
Ça devrait être gratuit. Et là, ils sont en mode, ok, let's go, du coup, let's go, ça va être à 10 balles. Pareil, vous voulez la petite caméra qu'on a mis en option, hop, 40€ ou 90, je crois que si tu la vois en 1080p.
Foutage de gueule.
C'est genre, ouais, vraiment, leur innovation technique, c'est la webcam et Discord.
Genre... Ouais, non mais ça c'est... En plus c'est là où là, on a vraiment genre... C'est l'une des rares fois où Nintendo nous propose une nouvelle génération, littéralement, mm-hmm. une nouvelle console, où il y a aussi peu de révolution technique du point de vue de la console en fait. Ouais. C'est-à-dire, la Nintendo 64 apporte la 3D sur la console, la GameCube, il n'y avait pas vraiment de révolution technique.
T'avais les gâchettes...
Il y avait la double gâchette.
Ouais, voilà.
Sur la GameCube, il y avait ça, la Wii, bah, le remote control, la Wii U, voilà, c'était déjà une pré-Switch en fait.
Ouais.
Il y a la Switch qui vient vraiment apporter vraiment le côté docké en mode ultime. Et là, la Switch 2, elle n'a pas vraiment de plus-value vis-à-vis de la Switch 1, si ce n'est voilà, être une Switch Pro, en fait. Genre, elle est plus puissante, elle est un peu plus au goût du jour, sauf que moi, la Switch 2, je lui donne les 4-5 ans avant qu'on redise la même chose que la Switch 1, c'est-à-dire, bah, je pense que la Switch 2 va vieillir limite plus vite que la Switch 1 vis-à-vis de comment... Il ne faut pas oublier que Elga, dans 4-5 ans, il y a la PlayStation 6. Il y a la PlayStation 6, voire même plus tôt, on ne sait pas. Ça se trouve, 2028, elle va drop. Xbox va peut-être nous sortir une nouvelle console. Et là, l'écart va encore plus se dessiner. Et le problème, c'est que les développeurs, eux, les jeux, ils vont continuer à évoluer. Il y a moyen que la Switch 2, en fait, elle soit obsolète plus rapidement que sa grande sœur.
Ça serait possible, mais moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'elle aurait une plus longue longévité. Sur le fait est que si on prend la... Enfin, c'est une question de timing. C'est que la PS4, par exemple, c'est une console qui, je pense, a une longévité de fou en termes de hardware. Parce que maintenant, même si les jeux deviennent de plus en plus gourmands, mais c'est sur les capacités techniques, le path tracing, des trucs comme ça, le ray tracing aussi obligatoire. On a eu genre Indiana Jones et Star Wars Outlaws. C'est des jeux qui ont du ray tracing. Peu importe les réglages que vous mettez dans le jeu, il y a une forme de ray tracing à la base. Donc maintenant, s'il y a des GPU, des cartes graphiques, on va se dire, ah bah, ils peuvent plus le faire tourner. Mais à part ces jeux-là, tu vois que la PS4, elle a ses 10 ans, elle souffle ses 10 bougies. La PS2, ok, elle a une longue longévité, même la première PlayStation, mais il faut quand même voir que c'est des fenêtres de 5-6 ans avant que les consoles soient à la ramasse. Là, un PC ou une console, tu vois, comme la Switch 2, qui est l'équivalent d'une PS4, elle peut à peu près faire tourner les jeux actuels. Donc il y a quand même ce truc où on sent qu'il y a une évolution graphique, comme tu dis, qui est hyper fulgurante, parce qu'on a des technologies graphiques de plus en plus performantes, et en même temps, je dis pas qu'on stagne, mais tu sens que les développeurs, ils osent pas non plus taper là-dedans de façon obligatoire, dire « Ok, il faut tel hardware », parce que ça devient tellement, entre guillemets, genre ubuesque, le niveau de performance qu'il faut avoir. Donc, elle pourrait avoir une longévité plus longue si les consoles, entre guillemets, n'évoluent pas trop vite. C'est vraiment par rapport à la concurrence. Si PlayStation et Xbox arrivent avec une console qui, en effet, tape dans le ray tracing, le path tracing, en mode « Ok, maintenant, c'est bon », parce qu'on l'attendrait pour la génération de la PS6, peut-être. Mais comme aussi les consoles portables, comme le Steam Deck, on sait qu'il devrait y avoir une suite, les Rogue Ally, trucs comme ça, sont aussi quand même limités par le hardware de bah, c'est tout petit à faire des processeurs comme ça assez puissants. Je pense qu'elle a sa place pour tenir quelques années, enfin au moins plus de 5-6 ans. Par contre, c'est toujours le catalogue, les titres qui vont tourner dessus, comment. Et dans tous les cas, la seule vraie évolution technique, c'est le côté
la souris.
Pour moi, c'est le seul truc qui est vraiment un peu innovant. Tu vas avoir une souris avec un gyroscope. Je me dis, bah ouais, t'en as pas sur PC, t'as jamais eu ça. À voir comment ça va être implanté. Mais ouais, non, c'est une console qui donne envie sur plein de points. Moi, si on devait un peu arriver à la conclusion, je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'on l'avait dit, c'est une console qui est, en termes de hardware, en termes de jeu, on va pas la critiquer, ça a l'air très bien.
Ouais.
C'est cohérent avec ce que c'est. En tout cas, vous pouvez pas attendre une 5090 dans un petit boîtier comme ça. Par contre, vis-à-vis du prix que c'est vendu, et surtout ouais, comment ça va aborder le prix des jeux à l'avenir, est-ce qu'on va dire « Ah, mais tel jeu qui dure 150 heures, du coup, il faut dépenser tant pour le mériter, ou tel jeu qui a coûté tant de millions. »
Tu vois, les Baldur's Gate 3, ouais. les Cyberpunk, les Elden Ring... On verra, hein. On verra. Bah, c'est ça la fin, c'est on verra. Vraiment, j'ai pas mal de doutes, mais on peut que wait and see, j'ai envie de dire. Wait and see. Sur ce, c'était un super épisode.
Ouais.
En attendant que GTA 6 coûte 149 euros, que la PS6 coûte 1300 balles, c'était RNG, Radio Campus Paris, 93.9 FM. J'étais avec Ulysse. Merci à toi. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.
Ouais.
Ciao.
Ciao, salut.
Bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG. First, the basics of particle blast deflection. Dude, I could be gaming.